Les Amériques. Bonjour Anne.
Bonjour Valentine, bonjour à tous. Au sommaire, une scène un peu surréaliste hier au Sénat haïtien. Les sénateurs de l'opposition ont saccagé la salle où devait se dérouler le discours de politique générale du Premier ministre désigné Jean-Michel Lapin. Celui-ci attend toujours sa confirmation à son poste après 2 mois de statu quo. On en parlera avec Amélie Baron qui était sur place. Bien sûr, on vous reparlera de cette décision du président américain d'imposer des droits de douane à tous les produits mexicains importés aux États-Unis. Et puis on entendra le témoignage de l'un des prisonniers politiques les plus emblématiques du Venezuela, Lorente Salé, qui était à Paris cette semaine pour témoigner des violations des droits de l'homme au Venezuela après avoir passé 4 ans en prison.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti s'enfonce encore davantage dans la crise politique. Hier, la séance prévue au Sénat n'a pas eu lieu. Le Premier ministre Jean-Michel Lapin devait venir y présenter son discours de politique générale, mais il n'a à nouveau pas pu le faire car l'opposition a pour une troisième fois empêché la tenue des débats. Amélie Baron était sur place. Cette fois-ci, les élus opposés à Jovenel Moïse ont utilisé la manière la plus radicale qu'ils soient. Ils ont saccagé la salle, Amélie.
Effectivement, le groupe des 4 sénateurs les plus virulents contre l'exécutif n'ont pas même cette fois attendu l'ouverture de la séance. Les 2 dernières fois, on s'en souvient, c'est avec des mégaphones qu'ils ont empêché les débats. Cette fois, avant 8h du matin, ils étaient présents au Parlement, avant l'heure donc de convocation, et ils ont alors commencé à jeter sur la cour les chaises, les bureaux, le matériel de sonorisation. Un acte que le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, assume totalement.
Nous mettions dehors pour nous dire...
On les a mis dehors pour dire qu'il ne devait pas y avoir de séance. On a toujours dit qu'il n'y avait qu'une seule façon pour que le président fasse approuver ses ministres, en respectant la loi. S'il rentre dans le cadre de la loi, on sera doux comme des agneaux. Mais ils utilisent des arguments en disant qu'il y a eu des précédents. Mais ces précédents n'ont pas force de loi. J'aimerais que mes collègues s'inscrivent dans cette démarche d'écrire au président en lui demandant de former un gouvernement qui réponde aux besoins du peuple haïtien et pas en intégrant des ministres d'amis qu'on renouvelle parce qu'ils ont bien servi telle ou telle personne.
Il était bien servi un tel.
Et toute la matinée, les 4 sénateurs de l'opposition ont attendu devant cet amas de meubles sous la pluie fine qui finissait de dégrader les équipements. Le sénateur Ricard Pierre, qui a participé à ce déménagement, si on peut dire surréaliste, a tenu à expliquer en quoi la composition du gouvernement de Jean-Michel Lapin était définitivement légalement irrecevable.
D'après la Constitution, quand un Premier ministre donne sa démission, le président choisit parmi les ministres un nouveau Premier ministre intérimaire, ce qu'il a fait avec M. Lapin. Il a fait ce choix le 20 mars. La Constitution donne au Premier ministre intérimaire 30 jours pour composer un nouveau gouvernement. Donc la période de liquidation des affaires courantes est clairement établie dans la Constitution. Le 21 avril, tous ces ministres sont devenus des anciens ordonnateurs et il leur faut désormais présenter une décharge.
Donc il y a besoin de décharge.
La décharge, c'est ce document délivré par la Cour supérieure des comptes qui atteste d'une bonne gestion des fonds publics et donc les 8 ministres qui figuraient dans le gouvernement Séan et qui ont été reconduits dans le cabinet de M. Lapin doivent avoir ce document avant de pouvoir prétendre à un autre poste ministériel. Hier, le sénateur Jean-Renel Senatus, qui lui n'a pas participé à la dégradation de la salle de séance, était aussi présent sur la cour du Parlement. Sans même aborder cette question de décharge, il considère que le président Jovenel Moïse devrait changer de ministre de justice par respect pour la population.
Aujourd'hui, Port-au-Prince est gangstérisé. Dans le département de l'Artibonite, les commerçants sont obligés de fermer leurs magasins à cause de l'insécurité. Le marché du port, ici à la Croix-des-Bossales, est fermé et des personnes sont tuées partout à travers le pays. Le président Jovenel dit qu'il y a la justice dans le pays, qu'il y a de la sécurité dans le pays. Il a décidé de reconduire son ministre de la Justice car il estime qu'il fait du bon travail. J'estime que c'est de la provocation vis-à-vis de la population haïtienne.
Le pays est gangstérisé et le président en est responsable.
Et alors que le sénateur Jean-Renel Senatus prononçait ces mots, des tirs se sont fait entendre à l'extérieur du Parlement, à quelques mètres seulement. Un petit groupe d'opposants au pouvoir était venu en signe de soutien au groupe de 4 sénateurs. Et les échauffourées avec les policiers ont été plutôt intenses. Les forces de l'ordre ont fait un très très large usage de grenades lacrymogènes pour tenter de disperser la petite foule. Ils ont donc aussi tiré en l'air à balles réelles. Et face à cet usage de la force, certains ont érigé des petites barricades de pneus enflammés à quelques carrefours du centre-ville. Et un camion a été également incendié.
Le reportage d'Amélie Baron, notre correspondante à Port-au-Prince. Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
Et dans la presse haïtienne, Marie, beaucoup de réactions après ce coup de force des sénateurs de l'opposition.
Oui, pour le Nouvelliste, cet épisode illustre l'atomisation du pouvoir en Haïti. On perd le contrôle du territoire parcelle par parcelle, comme on perd le contrôle de la plus sélecte des assemblées, comme on perd le contrôle des routes ou du marché d'échange. Du mobilier du Sénat éparpillé en plein air poursuit le National, une image à la fois cocasse et sordide. Cocasse car elle traduit le niveau de déchéance des institutions républicaines. Elle met à nu la laideur des hommes placés au plus haut de l'État. Sordide, poursuit ce journal, car elle va certainement renforcer la perception de ceux qui assimilent déjà Haïti à l'étranger comme une entité chaotique et ingouvernable.
Les journaux qui s'inquiètent des conséquences économiques en Haïti.
Oui, ce qui s'est passé ouvre la voie à une détérioration de la gourde, la monnaie nationale, puisque nous ne savons pas quand nous aurons un gouvernement. C'est ce que déclare l'économiste Kestner Farrell au journal américain Miami Herald. Et puis, rappelle le journal, il y a ce prêt à taux zéro du FMI dont a cruellement besoin Haïti, mais qui est lié à la formation d'un gouvernement et à l'approbation d'un budget par les deux chambres. Tout cela est maintenant suspendu.
Le National qui appelle désormais au consensus.
Pour que les élections législatives puissent bien se tenir en 2019. Dans le cas contraire, le Parlement haïtien serait frappé de caducité en janvier 2020. Ce n'est plus le moment de bomber le torse en regardant la République s'effondrer. On est tous coupables, insiste Noclas Debreus dans son édito aujourd'hui. Que les forces antagonistes revoient leurs exigences. Aucun sacrifice ne devrait être trop grand pour sauver le pays.
On quitte Haïti et on poursuit avec ce coup de tonnerre. Le président américain va imposer dès le 10 juin prochain des droits de douane sur les produits en provenance du Mexique. Il accuse son voisin de laxisme sur le dossier de l'immigration clandestine.
Et forcément, Anne, c'est à la une de toute la presse mexicaine. Je vous lis quelques-unes. Monsieur tarif douanier attaque de nouveau, titre El Economista, pour qui l'obus tarifaire cible désormais le Mexique. Le journal évalue d'ailleurs à 1000 millions de pesos par jour, près de 50 millions de dollars par jour. Et les pertes pour le Mexique lorsque cette première hausse de 5% des tarifs douaniers sera mise en vigueur. Le coup le plus dur porté contre l'économie nationale depuis la crise de 2009, commente El Universal. Ce quotidien rappelle que tous les types de produits sont concernés et voilà ce que le Mexique exporte le plus vers son voisin. Des véhicules légers et leurs pièces détachées, ensuite des ordinateurs, des tablettes, d'autres équipements électroniques, puis des véhicules de transport de marchandises. La Jornada voit dans les annonces de l'administration américaine une pression interventionniste grossière qui vise à imposer au Mexique une politique migratoire conforme à la propagande et aux intérêts électoraux de la Maison-Blanche. La déclaration de Jesús Seade, le ministre adjoint des Affaires étrangères, est aussi largement reprise par la presse. On l'écoute.
Esa amenaza llevada a la acción sería gravísima.
Cette menace est très grave, dit-il, et si elle se concrétise, ce serait dramatique. À mon avis, poursuit-il, pour sortir de cette impasse, il faudra répondre œil pour œil. En attendant, le président AMLO, Andrés Manuel López Obrador, dit vouloir éviter une confrontation avec les États-Unis. Il a ordonné à son ministre des Affaires étrangères de se rendre dès aujourd'hui à Washington pour des discussions.
La presse qui se félicite de la réponse du président mexicain.
Oui, réaction mesurée mais ferme, pense le journal Chronica. Cette fois, heureusement, AMLO n'a pas répondu comme d'habitude. Le président des États-Unis ne doit pas croire qu'il est devant quelqu'un de lâche ou de timoré. La Jornada pense que les circonstances exigent un savant équilibre entre prudence et fermeté pour que prime le bon sens dans le dialogue bilatéral. Après ce coup de marteau, cette agression de Trump, écrit l'éditorialiste de Millenio, AMLO n'a pas répondu avec l'habituel « je ne veux pas de confrontation », mais avec un ton qu'on ne lui connaissait pas encore. Et c'était ce que nous voulions, conclut le quotidien mexicain de l'énergie et de la dignité.
Une réaction également relevée aujourd'hui dans la presse américaine.
Les tarifs douaniers, le remède miracle de Monsieur Trump, s'exclame le New York Times. Le président a l'air de voir ses droits de douane comme la solution à une large palette de problèmes en matière de politique étrangère et ça ne marche pas.
Un mot du Venezuela pour finir, Marie.
Oui, vous vous souvenez peut-être de ce journaliste star de la chaîne américaine Univision qui s'était fait expulser du Venezuela. C'était en février dernier, juste après une interview de Nicolas Maduro et cette interview n'avait pas plu au président. tout le matériel des journalistes et la vidéo de l'entretien avaient été confisqués. Eh bien, cette vidéo vient d'être récupérée auprès de sources confidentielles, explique la chaîne, et un premier extrait a été diffusé cette nuit. Les médias vénézuéliens en ligne le partagent largement. El Universal parle de pétage de plomb de Nicolas Maduro. Écoutez la réaction du président lorsque le journaliste lui montre un bout de papier. Il assure que c'est une liste de prisonniers politiques.
Vienes a provocarme. Tu
es venu me provoquer, tu vas ravaler tes provocations avec du Coca-Cola, remballe ton petit tas d'ordures, lance le président au journaliste, extrait d'un entretien très tendu du début à la fin qui sera diffusé en intégralité dimanche.
Merci Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques. On part au Brésil à présent où les coupes budgétaires annoncées par le président Jair Bolsonaro provoquent la colère des étudiants. Ils étaient des dizaines de milliers de nouveau dans la rue hier dans une centaine de villes du pays. Ces jeunes dénoncent le gel de 30% du budget des universités fédérales et la suppression de milliers de bourses étudiantes. Le reportage à Rio de Sara Cozzolino.
Plus d'éducation et moins de haine, a écrit Douglas Brambilla sur sa pancarte. Originaire de l'État de São Paulo, il ne pourrait pas continuer à étudier sans sa bourse.
On ne nous encourage pas à poursuivre des études. Si on me retire ma bourse, je serai obligé de faire mes valises et de rentrer chez mes parents. Je devrais abandonner mon doctorat.
Parmi les manifestants, certains ne sont pas encore étudiants, mais déjà inquiétés par leur avenir, comme Mariana Diop, âgée de 18 ans.
Je veux étudier les sciences sociales, mais Bolsonaro parle d'en finir avec la sociologie. Donc ça me préoccupe beaucoup, rester au Brésil pour commencer une matière que je ne pourrais peut-être pas terminer.
Mariana réfléchit à tenter sa chance pour étudier à l'étranger. C'est ce que Viviane Miranda a fait. Cette astrophysicienne et transsexuelle collabore désormais avec la NASA. Mais de passage à Rio pour donner un cours, elle a tenu à participer à la manifestation.
Tout ce que les États-Unis et les autres pays attendent, c'est que le Brésil fasse ses coups pour que les cerveaux brésiliens partent travailler chez eux. Si on veut un plan national de développement scientifique, on ne peut pas faire ça.
Il n'y aura pas de coupe, nous allons lutter, les manifestants. Mobilisés aussi contre la réforme des retraites, ils marcheront de nouveau dans les rues le 14 juin prochain, cette fois-ci pour une grève générale. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Ce témoignage, à présent, que nous vous proposons, Lorente Salé, l'un des prisonniers politiques les plus emblématiques du Venezuela, était à Paris cette semaine où il a été reçu par le Sénat et l'Assemblée nationale pour parler des violations des droits de l'homme au Venezuela. Pendant 4 ans, ce militant a été détenu et torturé par les services secrets vénézuéliens. Il vit à présent en exil en Espagne. Lucille Gimbert, de la rédaction en espagnol de RFI, l'a reçu dans nos studios. Lorente Salé revient sur l'ouverture en Norvège des discussions entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition. Il explique aussi le message qu'il est venu porter en France.
Nous avons besoin du soutien de la France. Nous avons besoin des forces politiques européennes pour pouvoir résoudre cette crise au Venezuela. Et aujourd'hui, j'ai demandé au Sénat son soutien sur 3 points. D'abord, encourager l'ouverture d'enquêtes au sein de la Cour pénale internationale. Deuxièmement, trouver des moyens d'appliquer le principe de compétence universelle aux crimes contre l'humanité commis au Venezuela, afin que leurs auteurs puissent être jugés ici, en France, comme le prévoit la loi.
Et
puis, quelque chose de très important en ce moment, l'appui de l'Assemblée nationale et du Sénat français aux députés vénézuéliens, qui pour beaucoup d'entre eux sont persécutés ou détenus.
Il y a actuellement des discussions à Oslo entre des représentants du gouvernement et de Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim, de hauts représentants dans les deux cas. Quel est votre regard sur ces discussions? Du scepticisme ou un certain espoir?
La grande inquiétude, c'est que ce dialogue soit un moyen pour le régime de reprendre des forces et de se maintenir au pouvoir, comme cela s'est déjà passé, encore et encore, quand ils se sont moqués de la médiation du pape, de celle de la République dominicaine et de toute la communauté internationale continuellement. Alors, ce n'est pas une raison pour qu'on écarte toute possibilité d'issue démocratique à cette crise, dans le cadre de la loi, mais la question c'est comment faire pour qu'aujourd'hui ces discussions ne se transforment pas en un nouveau coup monté et nous mène à être trompés par ces narcotrafiquants. Pour qu'ils respectent un quelconque accord, il faut un moyen de pression politique et diplomatique. Il faut promouvoir des enquêtes de la Cour pénale internationale, la juridiction universelle et les sanctions.
L'intervention militaire des États-Unis est une option ?
C'est une option qui n'est pas générée par l'opposition, mais par le silence et l'inaction de la communauté internationale. Ce qui encourage, au final, une intervention militaire, ce n'est pas l'opposition. Cela vient de l'attitude de la Cour pénale internationale, des gouvernements qui devraient agir et qui ne le font pas.
L'opposant vénézuélien Lorraine Tessalé, récipiendaire du prix Sakharov, était au micro de Lucille Gimbert de la rédaction en espagnol de RFI. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première Caraïbe présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une ce vendredi en Guadeloupe, les services de l'État ont fait le point hier sur la lutte contre la commercialisation des produits de la mer contaminés par le chlordécone.
Difficile, bien sûr, dans une île, autrement dit un territoire entouré d'eau, de contrôler toutes les personnes qui se livrent plus ou moins officiellement à la pêche, y compris, malheureusement, dans des zones totalement interdites. Franck Aristide.
Plus d'une soixantaine de missions menées sur les trois premiers mois de l'année en mer, dans les zones de restriction ou d'interdiction de pêche, et encore 30 filets ou casiers découverts et détruits. Les services de l'État rappellent donc que le long de la côte, entre Guayave et Vieux-Fort, toute pêche est strictement interdite et que sur une seconde zone allant de Gosier à Vieux Habitants ainsi que dans une partie du Grand Cul-de-Sac marin, certaines espèces listées ne peuvent être pêchées, tout comme les crabes syriques sur le littoral de Sainte-Rose et de Déhé. Et pour cause, des poissons, crustacés, mollusques et oursins vendus sur certains étals et marchés du sud Basse-Terre présentent des taux importants d'imprégnation au chlordécone. La préfecture recommande donc de limiter, voire d'éviter de consommer des produits de la mer issus des circuits non contrôlés, vente en bord de route, en porte-à-porte, de voisinage, par des revendeurs non déclarés, mais la consommation de produits d'eau douce non issus de l'aquaculture, tels que les wassous ou poissons de rivière, d'étang ou d'embouchure, est également fortement déconseillée, puisqu'eux aussi présentent des niveaux très élevés de contamination au chlordécone.
Le chlordécone dont on a arrêté l'aspersion sur les bananeraies, rappelons-le, en 1993, il y a 26 ans. On reste en Guadeloupe avec la CNBT, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, qui organise, nous vous en parlions déjà hier, jusqu'à samedi, la semaine de l'agrotransformation. L'agrotransformation, un secteur qui devrait bien fonctionner en Guadeloupe, mais qui ne fonctionne pas au final si bien que ça. C'est l'île de la Grenade qui est l'invité d'honneur de cette première semaine. Jocelyn Sapotille est le président de la CNBT. Il est au micro de Josiane Champion.
Les agro-transformateurs de la Guadeloupe sont nombreux, contrairement à ce qu'on croit, mais sont isolés, ne sont pas organisés. Donc se pose la question de l'approvisionnement. Grâce à ce que nous mettons en place aujourd'hui, eh bien, il y a déjà eu des contacts entre le monde des agriculteurs et celui des agro-transformateurs de façon à améliorer l'approvisionnement. Ensuite, bien sûr, on a fait venir des professionnels en matière de distribution, en matière d'équipement des agro-transformateurs, de façon à ce qu'ils puissent moderniser leur équipement, de façon à ce qu'ils puissent organiser le packaging, la distribution vers l'extérieur, l'exportation. Donc, des gens qui devraient travailler ensemble, mais qui, en fait, ne sont pas structurés pour se rencontrer. Et puis, la Caraïbe qui est autour de nous et qui a déjà une expérience en agro-transformation, qui travaille beaucoup avec les États-Unis, qui travaille aussi avec l'Europe anglophone. Pourquoi pas partager les expériences? Nous sommes allés à la recherche d'agro-transformateurs et de professionnels de la Caraïbe qui sont là aujourd'hui. Tobago qui est là. Nous avons aussi Barbade qui est là. Nous avons l'île de la Grenade. Et tous ces gens-là, effectivement, apportent leur expérience et échangent avec nos agro-transformateurs.
Bon après-midi, Anne. Bon week-end. À lundi.
Et à lundi, bon week-end à vous également, Benoît Ferrand. C'était la fin donc de ce journal d'Haïti et des Amériques. On se retrouve lundi, même heure, 14h10, heure de Paris, midi 10, en temps universel. Restez avec nous dans un peu plus d'une minute, le retour de l'actualité sur Radio France Internationale.
Du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM,
dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM,
dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.